Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, après de longues semaines de vraies fausses campagnes, un clip, 10 minutes sur les réseaux sociaux et les chaînes d'infos continuent, Éric Zemmour présente une France en proie à la violence, l'immigration incontrôlée, menacée dans ses modes de vie, la 7e symphonie de Beethoven en fond musical.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Dans ce clip alterne images style reportage très violente, d'autres historiques et celle de Zemmour qui pose en homme de culture devant une bibliothèque installée devant un micro comme De Gaulle le 18 juin. Cette candidature intervient quelques heures avant le dernier débat entre candidats de droite à la présidentielle. Ce sera ce soir sur France Inter. Toutes vos questions sur cette actualité politique très chargée dès maintenant. Pour notre invité, l'éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar, 01 45 24 7000. L'appli France Inter, rubrique Réagir, Guillaume Tabar avec nous à 13h30. Une femme noire au Panthéon, Joséphine Baker, 6e femme dans ce qui reste le temple des grands hommes, près de 80 personnalités. À quoi ressemblera la cérémonie ? Amélie Perrier nous dit tout. Joséphine Baker au cœur de C'est une chanson à 13h45 avec Frédéric Pommier et son invité. Dans l'actualité encore, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination des enfants fragiles, 5-11 ans. Le variant Omicron repéré en France à La Réunion. Le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique, invité d'Inter ce matin pour Noël, plutôt 6 que 12 à table. La population française va vieillir et diminuer au mi-temps du siècle, nous dit l'INSEE. L'inflation au plus haut depuis 13 ans. Et puis dans la famille Rollinger, le fils Hugo, élu meilleur cuisinier de l'année. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est donc par un clip de campagne sur les réseaux sociaux et repris par les chaînes d'infos continues qu'Éric Zemmour a déclaré officiellement sa candidature à la présidentielle il y a moins d'une heure. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Alors il n'y a pas de surprise sur le fond, Élodie, on y revient dans un instant. Arrêtons-nous d'abord avec vous sur la forme.
Oui, là c'est un peu plus surprenant, hein, effectivement. Première image, Éric Zemmour assis à un bureau devant un micro à l'ancienne, lit un texte, les yeux rivés sur sa feuille. La scène en rappelle une autre bien connue, le général de Gaulle et son appel du 18 juin 1940. En fond sonore, vous l'avez dit, la 7e de Beethoven. Pour illustrer les propos du candidat, un montage vidéo représentant la France en proie à la violence, à la déchéance, une France que l'on ne reconnaîtrait plus, selon Éric Zemmour.
Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange, et pour tout dire, étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux matchs de football, aux films de cinéma et aux livres scolaires de vos enfants. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez.
Éric Zemmour, donc, qui sur la forme tente, on le sent, d'opérer sa mue de polémiste à présidentiable, De Gaulle versus le doigt d'honneur adressé il y a quelques jours à une passante. Sur le fond, pas de surprise, hein, un méli-mélo de référence à tout ce que le candidat Zemmour estime être la vraie France, de Jeanne d'Arc à Delon, Bardot, Johnny Hallyday. Et bien sûr, ses thématiques phares, lutte contre l'immigration en tête.
Pour que les Français se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s'assimilent à leur culture, s'approprient leur histoire, pour que nous refassions des Français en France et pas des étrangers sur une terre inconnue.
Éric Zemmour, qui tête baissée toujours s'adresse aux Français, vous me connaissez depuis des années, justifiant son choix de se présenter à la présidentielle par l'inaction des autres hommes et femmes politiques.
Le voilà donc officiellement candidat. Avec qui ?
Alors autour de lui, il y a évidemment une poignée de fidèles. Hein. L'organigramme de sa campagne va bientôt être dévoilé. Un premier comité politique est prévu demain matin. Mais effectivement, au-delà de cette équipe en 3 mois de pré-campagne, Éric Zemmour a échoué à attirer des alliés de poids dans les rangs du RN ou des LR. Personne parmi les cadres n'a osé bouger. Plus décevant encore pour l'équipe Zemmour, la décision de Philippe Devilliers de ne pas venir dimanche au Zénith pour le premier meeting, pour ne pas entacher la réputation du Puy du Fou. Autre ami, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti conservateur VIA, attend lui toujours des gages, de fortes inflexions sur les sujets sociaux. Bref, vous le voyez, pour le moment, le premier rang dimanche ne brille pas par ses têtes d'affiche. Qu'importe le premier rang, tant que les Français sont là, rétorque l'entourage.
Et les premières réactions politiques, Damien Abad, pour les LR, prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Pour les marcheurs, Hugues Granson, le vice-président de l'Assemblée nationale, dans les images anxiogènes, il n'y a rien sur la délinquance de rue, des gens qui s'adressent des doigts d'honneur. Par ailleurs, c'est la première civilité, regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, quelle est la valeur ajoutée de cette candidature ? Nous sommes bel et bien en campagne. Éric Zemmour sera ce soir l'invité du 20h de TF1. Sur France 2 et France Inter, ce sont les 5 candidats LR à la présidentielle qui débattent une dernière fois avant le vote des militants à jour de cotisation. Ils sont environ 150 000. Bonjour Anne Souhaitement.
Bonjour Bruno.
La soirée présentée par Léa Salamé et Laurent Guimier sur Inter et France 2 commence à 21h05. Ce sera même dès 20h sur votre radio. Ils sont donc 5 les candidats dans l'ordre alphabétique. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Quels sont les enjeux de ce débat ce soir ?
Eh bien, ça va être de convaincre les derniers indécis, et ils sont nombreux. Un débat décisif donc, et qui devrait, selon un ancien ministre, être un peu plus vif que les autres. Car malgré déjà plusieurs jeux de télévisés, un grand oral au Conseil national, une campagne marathon, personne ne s'est imposé. Il y a eu des révélations, Éric Ciotti, excellent lors des premiers débats selon un cadre, des moments forts, comme les attaques de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand contre le moratoire migratoire de Michel Barnier, et des surprises, Philippe Juvin, de là à créer une tendance, difficile à dire. Du coup, ce soir, les 5 candidats seront dans une position un peu compliquée. Ne pas faire de faux pas d'un côté, mais essayer de marquer les esprits de l'autre. Chez Valérie Pécresse, on compte beaucoup sur les thématiques mises à l'honneur, éducation, écologie, pour faire la différence ce soir.
Ce sera donc juste après le passage d'Éric Zemmour aux 20h de TF1. Le candidat d'extrême droite a-t-il beaucoup perturbé, Anne, la campagne chez les LR ?
Oui, d'ailleurs, hier soir, on était un peu agacés chez LR quand on a appris qu'Éric Zemmour allait se déclarer aujourd'hui. Il va nous polluer la dernière ligne droite, s'énervait un grand élu. Éric Zemmour, fantôme de cette campagne, c'était en tout cas très clair au début. Dans le discours des candidats, qui ont mis la barre très à droite, des députés voulaient même que le polémiste participe au congrès, et dans le discours des militants, où on menaçait ouvertement de voter Zemmour. Depuis quelques semaines, on sent, Bruno, sur le terrain, une légère inflexion des militants qui rentrent au bercail. Question, la déclaration de candidature d'Éric Zemmour va-t-elle fragiliser le candidat LR désigné samedi ? On croise les doigts, grince des dents un député.
Le vote des militants LR, c'est à partir de demain matin, 8h. Ce sera le premier tour, les résultats jeudi après-midi, puis le second tour, et le vainqueur sera proclamé samedi à 14h30. Cette actualité politique chargée, on en reparle à 13h30 avec l'invité du 13-14, l'éditorialiste politique du Figaro, Guillaume Tabar. Toutes vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, et sur la candidature d'Éric Zemmour, les mots employés dans son clip il y a une heure tout juste. Vous retrouvez tout cela sur franceinter.fr. Taux d'incidence près de 300, taux de reproduction du virus plus d'1,5, pas de flambée à l'hôpital, mais une hausse régulière. Près de 10 000 patients, près de 500 en plus hier, 1749 sont en soins critiques. Voilà le point Covid à 13h07. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Face à la cinquième vague, le variant Delta, ultra majoritaire pour l'instant, où en est la campagne de vaccination ? La Direction Générale de la Santé faisait le point ce matin.
Oui, et puis elle a repris clairement de l'élan, Bruno, cette campagne de vaccination depuis les annonce d'Olivier Véran jeudi dernier, l'ouverture de la vaccination de rappel à tous les plus de 18 ans vaccinés il y a plus de 5 mois. Les premières doses marquent toujours le pas, mais augmentent légèrement. Il reste tout de même un peu plus de 6 millions de personnes qui n'ont toujours pas tendu le bras. En revanche, donc, gros succès pour les doses de rappel. 25 millions de Français sont éligibles à cette vaccination. 7 millions l'ont déjà reçue. Preuve de cet engouement, 4 millions de rendez-vous ont été pris ces derniers jours. Les commandes passées par la ville, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, n'ont jamais été aussi élevées, selon la Direction Générale de la Santé. Elles se font chaque semaine, les lundis et mardis, 7 millions de doses avaient déjà été commandées hier soir. Les autorités sanitaires demandent aux Français de s'armer un peu de patience. Des créneaux de rendez-vous sont ouverts tous les jours et surtout des centres vont rouvrir. 300 devraient s'ajouter aux 1180 actuels.
Autre information importante de la matinée, Hélène, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination anti-Covid aux enfants entre 5 et 11 ans qui sont fragiles.
Oui, la HAS considère que le bénéfice individuel de cette vaccination est établi pour les enfants ayant des comorbidités et qui sont à risque de formes graves. Au total, cela concerne un peu plus de 360 000 enfants en France. Sont concernés des enfants souffrant de diabète, d'obésité, de maladies cardiaques et respiratoires chroniques, y compris l'asthme sévère, des enfants ayant eu un cancer récemment ou atteint d'un handicap neurologique. La liste est un peu plus longue. La Haute Autorité de Santé préconise également de vacciner les 5-11 ans vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou de personnes vulnérables non protégées par la vaccination. Quand cette vaccination sera-t-elle mise en place, eh bien la Direction Générale de la Santé ne s'est pas prononcée ce matin.
7 millions de personnes qui ont déjà reçu la troisième dose, 4 millions de rendez-vous ces derniers jours, nous disiez-vous, Hélène. Et peut-être avez-vous essayé de prendre un rendez-vous et peut-être que vous avez du mal à écouter à ce sujet. Karine Wolf, la présidente de l'Ordre des pharmaciens, On est dans une phase d'ajustement, dit-elle, de mise en place de la logistique. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de créneaux pour l'instant, mais ça va venir. Elle nous explique tout cela.
Les doses de vaccins ne sont pas encore arrivées en officine, puisqu'il faut le temps de la commande et de l'acheminement. Donc les créneaux ne sont ouverts pour des rendez-vous qu'une fois les vaccins dans les frigos. Il faut 15 jours. Donc il faut un petit peu de patience. Mais en fait, c'est les discussions qui sont en train d'avoir lieu. C'est d'accélérer justement la rapidité de mise à disposition pour distribuer à l'ensemble des professionnels de santé. Les créneaux vont ouvrir puisque les pharmaciens ont pu passer des commandes hier. Après, la question qui reste, c'est renforcer les équipes, très sollicitées effectivement en officine, avec la difficulté sur les tests antigéniques sur lesquels on est à nouveau très fortement sollicité, notamment pour des classes entières, pour des dépistages. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un arrêté qui vient de paraître qui autorise les étudiants à partir du deuxième cycle de pharmacie de vacciner en officine. Les choses vont se mettre en place, mais c'est vrai que c'est une période là très compliquée pour les jours à venir.
Un propos recueilli par Rémi Brancato, un premier cas du variant Omicron en France a été annoncé ces dernières heures. Un homme de 53 ans à La Réunion. Il avait voyagé en Afrique du Sud, au Mozambique, à l'île Maurice. La Réunion, au large de Madagascar, est le territoire français le plus proche de l'Afrique australe. Le patient a été détecté positif le lendemain de son arrivée à l'aéroport. 6 personnes de son entourage sont considérées cas contact. Quelle sera l'efficacité des vaccins contre la version Omicron du virus de la Covid? Les scientifiques ont besoin de temps pour répondre précisément. Les données seront disponibles dans les 2 prochaines semaines, assure le patron de Moderna. Stéphane Bancel redoute une baisse significative de l'efficacité des vaccins, au moins dans un premier temps. Et auprès de Marc Fauvel sur France Info, le vice-président de Moderna, Dan Stanner, dessine 3 lignes de défense.
Dans l'immédiat, nous testons notre booster, ce que j'appelle le booster, notre vaccin de rappel à 50 microgrammes contre le variant Omicron. En parallèle du booster, nous testons aussi un vaccin de 100 microgrammes qui, on l'espère, résistera encore plus de par le fait que la dose est 2 fois la dose du booster actuel. La deuxième ligne de défense, qui devrait elle mettre à peu près 3 mois à venir, nous pensons pouvoir développer un vaccin multivalent qui contient, c'est-à-dire 2 séquences d'ARN messager et qui devrait couvrir les mutations principales des variants Delta et des variants Beta. Pour rappel, le variant Omicron contient un grand nombre de mutations observées dans ces 2 variants. Et la 3e ligne de défense, qui elle prendra, on va dire, dans les 6 à 7 mois, nous avançons également dans le développement d'un vaccin spécifique à une seule séquence ARN messager, mais cette fois-ci ciblant directement le variant Omicron.
Combien de patients contaminés par Omicron? Il circule sur le continent européen depuis un peu plus longtemps que ce qu'on pouvait penser ces derniers jours. Il était présent aux Pays-Bas il y a plus de 10 jours, le 19 novembre, selon l'autorité sanitaire du pays européen. La Chine reconnaît que l'apparition de ce variant complique l'organisation des Jeux d'hiver dans un peu plus de 2 mois. Pour l'instant, c'est contre Delta que la France lutte. Delta est la 5e vague. Le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique, était ce matin l'invité de France Inter, pressé de questions par Nicolas Demorand et Yael Goz. Combien pourra-t-on être autour de la table à Noël ?
On est sur des projections qui nous disent que le pic de la 5e vague va plutôt être au mois de janvier. Du coup, malheureusement, la période pendant laquelle on va devoir freiner la circulation du virus inclut les fêtes de fin d'année. On n'est pas en train de dire on va tout arrêter, etc. et compagnie. On est en train de dire faites attention. Tout dépend aussi des personnes que vous invitez. Si vous avez des personnes qui sont fragiles, vous avez à ce moment-là, vous les mettez un petit peu sur le côté, vous ouvrez les fenêtres.
Là, vous n'avancez pas trop là, combien la jauge?
Mais non, mais je pense
non, mais que c'est 4 ou 12 pour avoir une fourchette.
Alors ce sera plutôt 6 que 12, on va dire. Je ne vais pas m'arrêter à des chiffres, etc. Je voudrais qu'il y ait juste une prise de conscience de la nécessité de tous de faire un effort pour éviter de se retrouver avec une saturation des services hospitaliers qui obligerait à des mesures beaucoup plus contraignantes. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'avoir dans son entourage des enfants représentait un surrisque d'infection. Pourquoi ? Parce que les enfants de moins de 12 ans, on le sait, ne peuvent être vaccinés. Les lycéens et les collégiens qui étaient un surrisque ne le sont plus depuis l'introduction de la vaccination chez les adolescents. Donc si vous avez des enfants symptomatiques,
donc, si
faites-les tester.
Soyez prudents pour ne pas saturer les hôpitaux, dit le professeur Fontanet. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, les services d'urgence multiplient les alertes concernant leur situation. Faute de médecins ou d'infirmières, certains services sont obligés de fermer la nuit ou le week-end. Le CHU de Nantes est débordé par les patients depuis plusieurs mois, à tel point que l'hôpital appelle la population à un juste recours aux services. Éric Battard est le chef des urgences adultes au CHU de Nantes. Il répond à Hélène Chevalier.
Quand on voit un jeune qui vient pour une douleur abdominale, qui a mal depuis 2-3 heures au ventre, qui a même pas pris un gramme de Dafalgan avant de venir pour voir si ça pouvait faire passer la douleur, on se dit que dans la plupart des cas, le patient aurait pu attendre un peu de voir comment les choses évoluent avant de décider de venir aux urgences. On plaide pour un juste recours aux urgences parce que les services d'urgence, enfin à Nantes, mais aussi, je pense, partout en France, sont actuellement saturés. On a retrouvé des niveaux d'activité en termes de nombre de passages qui sont similaires à ceux de 2019, avec, on a même battu quelques records historiques au cours des dernières semaines, mais surtout les patients restent actuellement beaucoup plus longtemps aux urgences. C'est des gens qu'on cherche à hospitaliser, mais qu'on n'arrive pas à hospitaliser parce qu'il n'y a pas de place dans les services hospitaliers pour les accueillir. Ce manque de place est en partie dû au fait que des lits sont fermés dans l'hôpital par manque de personnel paramédical. Mais c'est quelque chose qui se dégrade d'une façon très inquiétante depuis quelques mois.
Le chef des urgences adultes au CHU de Nantes avec Hélène Chevalier. Les deux informations de la matinée pour la situation sanitaire. C'est donc ce chiffre, 7 millions de personnes qui ont déjà eu leur troisième dose. Et puis la Haute Autorité de Santé qui appelle à la vaccination des enfants fragiles 5-11 ans. Ce sera au gouvernement de trancher. Après Sophie Berthelot, après la physicienne Marie Curie, Geneviève Antonios de Gaulle, résistante et dirigeante d'ATD Quart-Monde, après Germaine Tillion, héroïne de la guerre, et Simone Veil, la ministre qui s'est battue pour le droit à l'avortement, Joséphine Baker sera à 17h30 tout à l'heure la sixième femme à entrer au Panthéon. Cérémonie présidée par Emmanuel Macron. La dernière fois, c'était pour accueillir Maurice Genevoix et les combattants de la guerre de 14. En 1914, Joséphine Baker était une petite américaine victime de racisme. Le combat contre le racisme, la résistance, la générosité, le talent de l'artiste, le refus de rester enfermé dans une seule identité, c'est tout cela qui accompagne Joséphine Baker au Panthéon. Bonjour Amélie Perrier.
Bonjour Bruno.
Vous nous ferez vivre la cérémonie ce soir lors de l'édition spéciale sur France Inter. Cette panthéonisation est un événement à plus d'un titre.
Oui, d'abord parce que c'est la première artiste de scène à y faire son entrée au milieu des écrivains, des politiques, des scientifiques. Elle est la sixième femme, vous l'avez dit, et la cinquième personnalité noire après Félix Eboué, Alexandre Dumas, Aimé Césaire et Toussaint Louverture.
Et comme pour Aimé Césaire, Germaine Tillion ou encore Geneviève Antonios de Gaulle, c'est un cénotaphe que l'on verra cet après-midi.
Alors un cénotaphe, vous commencez à savoir ce que ça veut dire. C'est un tombeau vide. Le corps de Joséphine reste inhumé à Monaco à la demande des enfants. Dans ce cercueil symbolique, il y aura quand même des poignées de terre des quatre lieux marquants de sa vie. Saint-Louis aux États-Unis où elle est née en 1906. Paris qui lui fait un triomphe dans les années 20. Les Milandes, son château en Dordogne. Et Monaco qui la recueille quand elle est ruinée. Joséphine a été très proche de la princesse Grace. D'ailleurs, le prince Albert de Monaco est attendu parmi les invités cet après-midi aux côtés des nombreux enfants Bouillon-Bakker.
Également invité au Panthéon, de nombreux élus nationaux et locaux.
Oui, dont des maires de Dordogne, une partie du gouvernement aussi évidemment, dans les tribunes également des enfants et des jeunes de 13 classes d'école baptisées Joséphine Baker ou ayant travaillé sur la figure de la grande dame. Des artistes aussi comme Laurent Voulzy, il a fait partie du comité pour la panthéonisation de Joséphine, Lynn Renaud, consoeur de cabaret, sans oublier des représentantes d'associations antiracistes comme la LICRA. Joséphine s'en rapproche dès 1938, à l'époque on parle de la LICA et c'est la lutte avant tout contre l'antisémitisme.
Des enfants invités donc, des enfants acteurs de la cérémonie aussi.
60 enfants de la maîtrise populaire de l'opéra comique, ils chanteront dans mon village. C'est un hommage en fait, cette chanson, au Milande.
Dans mon village, j'élève tendrement.
Voilà, elle raconte que c'est là qu'elle va élever sa tribu arc-en-ciel, ses 12 enfants adoptés partout dans le monde. Et parmi les jeunes chanteurs de cette maîtrise populaire, Elisa, au micro de Sébastien Baer, très fière de participer à la cérémonie.
Je sais juste que du coup, c'est une chanteuse, actrice, danseuse qui n'a pas eu une enfance facile. Elle est américaine et son pays, c'est la France pour elle. Ça représente vraiment tout, la France.
Alors on entendra dans mon village, on entendra aussi le tube évidemment, j'ai deux amours. Et pendant que le cénotaphe remontera la rue Soufflot jusqu'au Panthéon, le récit de sa folle vie dit par une pensionnaire de la Comédie Française, Séphora Pondy, une jeune comédienne noire, je le précise parce qu'ici ça a du sens. Et la cérémonie se terminera par un discours d'Emmanuel Macron vers 18h-18h15 et la Marseillaise chantée par le chœur de l'armée française pour la sous-lieutenant de Baker.
Et édition spéciale ce soir sur France Inter, vous y participerez Amélie, c'est absolument à partir de 17h avec aussi Martin Penet, producteur sur France Musique, spécialiste de l'histoire de la chanson, l'historien Pascal Blanchard, l'essayiste Rachel Kahn et la rédaction de France Inter. Avant cela, dans ce 13-14, tout à l'heure, dans un peu plus de 20 minutes, le metteur en scène Xavier Duringer, auteur d'un spectacle consacré à Joséphine Baker, actuellement à Paris, sera avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Nous écouterons la chanson C'est lui. Voici un motif d'inquiétude qui monte dans beaucoup de pays, la hausse des prix. En France, l'inflation est au plus haut depuis 13 ans, plus 0,4% sur un mois, plus 3,4% sur un an. Écoutez ce qu'en dit Eric Heyer de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Oui, le chiffre est élevé, pas encore d'inquiétude majeure. C'est le coût de l'énergie et des matières premières qui pousse les prix.
Alors oui, la police statistique, elle apparaît très clairement. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette inflation est essentiellement tirée par deux phénomènes. Un, l'an dernier, on avait des prix extrêmement bas. Et l'an dernier, l'inflation était à zéro. Même on avait des prix qui baissaient dans certains cas de figure. Et là, donc du coup, quand on se compare à des prix bas, en fait, cette inflation-là est à relativiser. Et vous voyez, si on regarde aujourd'hui le niveau des prix par rapport au niveau des prix que l'on aurait eu s'il y avait eu 2% d'inflation en 2020 et 2021, on est en dessous. Donc attention à cet effet de base. Mais il n'en reste pas moins que pour certaines matières premières, aujourd'hui, il y a une vraie flambée. Alors, énergétique, de transport, de l'intégralité des matières premières. Et là, ça, on commence à le voir arriver dans les prix de production. Et donc, aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises sont obligées de le répercuter dans les prix à la consommation. Et donc, après une année 2020 avec une inflation très faible, l'année 2021 est en phase de rattrapage un peu plus fort que celui qu'on anticipait.
Et l'inflation grimpe aussi dans la zone euro, près de 5% sur un an en novembre. À propos du coût des matières premières, la tonne de blé est au plus haut depuis 10 ans sur le marché européen. Malgré la menace que fait peser le variant Omicron, la croissance économique tient toujours le coup en France, 3% comme prévu entre juillet et septembre, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais la situation sanitaire inquiète les investisseurs à la bourse. En milieu de matinée, le CAC 40 était en baisse de plus de 1% sous les 6700 points. Autre chiffre de l'INSEE, intéressant en soi, et qui auront des conséquences économiques, notamment sur notre système de retraite. La population française vieillit et va même décliner à partir de la moitié du siècle, selon l'Institut de statistique. En 2044, si les chiffres de la fécondité et de l'immigration restent les mêmes, nous serons un peu plus de 69 millions en France, c'est 67 aujourd'hui. Et ensuite, Claire Chaudière, la population baissera.
Oui, passé ce pic de 69 millions en 2044, en fait le solde migratoire ne suffira plus à compenser l'excédent de décès par rapport aux naissances. Selon le scénario principal établi par l'INSEE, d'ici un demi-siècle, la France redescendrait donc à un niveau probablement autour de 68 millions d'habitants. Sauf, et ce n'est pas impossible, si le taux de fécondité augmentait un peu d'ici là, ce qui pourrait changer la donne et faire remonter les courbes, il y a là une petite incertitude. Mais ce qui ne fait aucun doute, par contre, ce sont les variations attendues côté pyramide des âges, 6 millions de seniors de plus de 75 ans supplémentaires et parallèlement baisse du nombre de personnes de moins de 60 ans. On va vers un vieillissement inéluctable de la population à l'horizon 2040, dit l'INSEE, avec ce qu'on appelle un rapport de dépendance démographique qui va très nettement se dégrader, passant de 37 retraités pour 100 actifs à plus ou moins 50 retraités pour le même nombre d'actifs.
Et pour mémoire, il n'y aura pas de réforme des retraites d'ici à la fin du quinquennat, ce sera l'un des débats de la campagne présidentielle. C'était hier après-midi dans une classe du très prestigieux lycée Montaigne à Paris. Une professeure de mathématiques s'est fait casser la figure en plein cours par un élève de seconde. Enquête ouverte évidemment, l'élève est en garde à vue. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Que sait-on des faits et de cet élève ?
Pour l'instant, c'est le profil d'un élève adepte de sports de combat comme le MMA. Un adolescent qui vit également dans un environnement familial avec des parents en pleine séparation. Mais la garde à vue qui se poursuit au commissariat des 5e et 6e arrondissements de la capitale devrait permettre d'en savoir un peu plus dans les heures qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que ce genre d'agression de professeur en classe reste heureusement très rare, selon la Fédération Autonome de Solidarité qui regroupe la moitié des enseignants en France qui les accompagnent lorsqu'il y a des démarches juridiques à mener. Rare en tout cas à ce niveau-là de violence physique. On sait qu'il n'y a pas de profil type des agresseurs, que l'on soit en zone d'éducation prioritaire ou dans un lycée dit prestigieux comme celui justement de Montaigne à Paris, en difficulté scolaire ou bon élève. Ensuite, la question c'est de savoir si cet élève avait été repéré comme hautement perturbateur, avec ou non un suivi psychologique, à quel niveau, scolaire ou avec une prise en charge extérieure pour ce genre d'élèves qui peuvent avoir de tels accès de violence. Et tout ça, Bruno, pour une remarque d'une professeure sur une calculette tombée par terre.
Et une cellule psychologique devait être mise en place évidemment ce matin au lycée pour les élèves et pour les professeurs. Il s'appelle Parag Agrawal, son pseudo sur Twitter, c'est Paraga on le signale, parce qu'il est désormais le boss du réseau social si influent après la démission de Jack Dorsey. Parag Agrawal, spécialiste d'intelligence artificielle, il est passé chez Microsoft, Yahoo, l'université de Stanford, mais surtout l'université de Mumbai, Bombay autrefois, où il est né. Un Indien, donc, à la tête de Twitter. Ce n'est pas surprenant, ils sont nombreux à de très hauts postes dans les entreprises des nouvelles technologies. À New Delhi, Sébastien Farsi.
Parag Agrawal, âgé de 37 ans, a le profil typique des Indiens qui ont réussi dans la Silicon Valley. Il vient d'une famille de classe moyenne éduquée, a eu son premier diplôme d'ingénieur à l'Institut de technologie de Bombay, qui est l'une des écoles publiques indiennes les plus sélectives, ceci avant de mener son doctorat à l'université de Stanford, aux États-Unis. Il est donc, comme les directeurs de Google, Alphabet et de Microsoft, un immigrant de la première génération qui a réussi grâce à d'énormes efforts et à une éducation de qualité. C'est ce qu'explique Binod Kadria, président du Forum de recherche sur la diaspora et le transnationalisme.
La principale raison du succès des Indiens est leur éducation, qui est de qualité et en anglais, ce qui leur permet de s'adapter et d'être acceptés dans le monde entier, surtout par rapport aux Chinois. Ils ont aussi grandi dans un monde démocratique, similaire à celui des États-Unis. Enfin, à noter que ces Indiens ne viennent plus seulement de l'élite, grâce au système de discrimination positive instauré dans les grandes écoles indiennes, qui bénéficient aux classes populaires.
L'arrivée d'un Indien à la tête de Twitter pourrait aider à réduire les tensions qui existent entre la compagnie et le gouvernement indien autour des règles de modération du contenu du réseau en Inde. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
On fait décidément bien à manger chez les Rollinger. On ne compte plus les récompenses reçues par le père, Olivier. Le fils, Hugo, commence à les cumuler lui aussi, 2 étoiles Michelin depuis 2 ans. Et maintenant, le titre de meilleur cuisinier de l'année au Goemio pour ce chef de 33 ans.
Ça fait chaud au cœur parce que je cours pas après les titres, c'est pas ma priorité dans le métier de cuisinier. Et en fait, c'est juste faire les choses avec bon sens. Ce qui est intéressant, c'est tout le déroulé d'un menu au gré du vent et de la lune. Donc vous allez commencer par une eau marine, une eau de vie qui est une infusion d'algues, et après vous allez passer dans le potager celtique, vous allez aller vers plus de végétal, et après vous allez vraiment finir même dans des goûts du fond de la mer. Mais je tente toujours dans ma cuisine de réchauffer le goût de la mer. Donc ça va être avec un piment, avec un poivre. Pour moi, l'expression de la cuisine et l'expression à la fois naturelle, c'est-à-dire la beauté d'un territoire vu par un enfant du pays, comme un hommage aux hommes et aux femmes qui façonnent ce territoire, les pêcheurs, les maraîchers, les ostréiculteurs.
C'est aussi une histoire de famille avec votre père, Olivier Rollinger, triplement étoilé.
C'est une continuité, c'est-à-dire si papa y cuisinait encore aujourd'hui, il cuisinerait totalement différemment. C'est vraiment l'histoire d'une famille qui avance, c'est un clan. Et si je peux juste rajouter que ce titre, il est aussi pour ma femme Marine qui m'accompagne quand même dans ce métier, parce que sans elle, je ne ferai pas grand-chose non plus.
Hugo Rollinger et son épouse donc resteront le coquillage en Ille-et-Vilaine tout près du Mont-Saint-Michel. Propos recueillis par Julien Morcelli, il veut réchauffer le goût de la mer.